Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 8, le Prométhée. Entre les poètes, un seul, Eschyle, eut le bonheur d'être à la fois le chantre et le héros, d'avoir les actes et les œuvres, la grandeur de l'homme au complet. Seul, il gagna 50 fois la couronne de la tragédie. Seul, il eut, comme Homère, des rhapsodes qui le chantaient sur les chemins. Seul, il ne mourut pas, subsista toujours au théâtre, qui ne jouait que les vivants. Il resta en statue de bronze sur la place d'Athènes comme censeur, pontife et prophète, pour surveiller le peuple et l'avertir toujours. Le grand moqueur des dieux, Aristophane, ne respecte qu'Eschyle. Il l'a vu aux enfers siéger sur un trône d'airain. Dans la noble épitaphe qu'il se fit à lui-même, il rappelle seulement qu'il combattit à Marathon. Il oublie ses 100 tragédies. Il n'y eut jamais plus vaillante race. À Marathon, il est blessé et il est le frère des soldats les plus glorieux de Salamine. L'un, Amyntas, est le hardi pilote qui le premier heurta la flotte de Xerxès et y gagna le prix de la valeur. L'autre, l'obstiné Cynégyre, se fit tailler en pièces, ayant retenu son vaisseau par les mains, coupé une à une, puis retenu encore avec les dents. Les fils, neveux, parents d'Eschyle en auraient fait autant s'ils avaient eu de ces grands jours. Ils s'en dédommagèrent par un torrent de tragédies, bonnes ou mauvaises, composant avec la fureur guerrière du grand vieillard. Un des fils eut la singulière aventure de gagner le prix sur Sophocle, sur son chef-d'œuvre, l'Édipe roi. Les magistrats d'Athènes gardaient soigneusement un exemplaire correct et complet des œuvres d'Eschyle, de peur qu'un téméraire acteur ne changeât rien aux paroles sacrées. Et cependant, malgré ses soins, 7 drames en tout nous restent, dont une seule trilogie complète, l'Orestie. Des 3 parties du Prométhée, une subsiste. Débris énormes et colossales, comme le voyageur qui trouve dans le sable d'Égypte le pied d'un sphinx ou son doigt de granit, et qui, d'après, calcule de quelle hauteur était le monstre. Nous aussi, nous cherchons sur cette ruine à deviner ce que fut le géant Eschyle. Aristophane dit admirablement que les vers d'Eschyle sont forts comme les ais serrés d'un vaisseau, comme l'indestructible charpente de ces navires vainqueurs qui brisèrent la flotte d'Asie. Ils le mettent au-dessus de Sophocle, loin, bien loin du faible Euripide. Mais sa vraie place n'est pas là. Il serait bien plutôt entre Isaïe et Michel-Ange. Dans son œuvre si sombre, il y a bien autre chose que l'art. Il y a le vrai génie de la douleur. Rien qui adoucisse ou console comme dans Sophocle. Ces tragiques accents des héros du passé semblent pour le présent des avertissements redoutables, de lugubres pressentiments. Ils rappellent surtout Michel-Ange. Le prophète italien, au milieu des splendeurs et des conquêtes de Jules II, n'a peint que l'épouvante dans les plafonds de la Sixtine. Et le prophète Eschyle apparaît plein de deuil dans les prospérités d'Athènes. Tous deux ont vu d'avance des épreuves terribles, de cruels coups du sort, et au bout, le jugement, la haute victoire de la justice. C'est la grandeur d'Eschyle que ne pouvait encore ressentir Aristophane. Contre le fantasque arbitraire de la mythologie d'alors et des mythologies futures, il invoque, il contient, il enfante le juste. Son Prométhée nous donne, avec la mort de Jupiter, la mort et l'impuissance de tout mythe à venir qui n'est point fondé dans le droit. Son Caucase est le roc où tout à l'heure le stoïcien, contre la tyrannie du ciel et de la terre, assoira la jurisprudence. Avenir inconnu, voilé, l'âpreté du prophète, son deuil rempli d'étonnement. Eschyle, à 40 ans, commence la série menaçante de ses tragédies, au moment souriant où la cité libératrice poursuit, couronne sa victoire, apparaît reine de la Grèce. Elle est brillante, elle est féconde. En tous les sens, elle rayonne. Elle est jeune et elle a 20 ans dans ses deux génies admirables, deux adolescents qui éclatent, le beau Sophocle, le puissant Phidias. Celui-ci, d'abord peintre, pour coup d'essai de son ciseau, sculpte l'âme d'Athènes, sa Minerve Polyade, fière, souveraine et colossale, qui, de son casque étincelant, domine l'acropole et les temples, commande au loin la mer, les îles. Moment d'espoir immense. Entre Thémistocle, Aristide, entre le généreux Simon, l'habile et profond Périclès, la lutte semble faire l'équilibre et, par leur combat même, l'harmonie de la liberté. Échille ne voit rien de cela. Son âme semble être encore au siècle précédent, au désastre, au danger. Il a, comme Hérodote, la préoccupation de cette némésis qui plane sur nos têtes, qui épie nos prospérités. La prodigieuse Babylone est bien tombée. La massive et solide Égypte, si fortement assise, n'en a pas moins sa chute. Le bon Crésus, le rusé Polycrate et cette délicieuse Ionie, tout cela a péri. Athènes reste la digue qui arrête le torrent barbare. Mais dans Athènes même, que de rapides changements. Échille enfant vit les Pisistratides, la revanche de la liberté, le vaillant coup d'Harmodius. Homme fait, il eut ce bonheur, sa blessure de marathon. La Grèce s'est trouvée un moment portée jusqu'au ciel par le grand flot de Salamine. Il faut bien redescendre. Voici un nouvel âge. Celui d'héroïsme est fini. Celui de l'harmonie commence. Le règne de l'art et du beau. Un immense rayonnement de génie inventif et de raison féconde. Un monde de grâce et de lumière pour étonner tous les temps à venir. En un seul siècle, l'œuvre de 2000 ans. Est-ce là comme on vit? Comment ne pas prévoir des jours d'épuisement? Quel beau jeu aura Némésis pour revenir, ramener les barbares, non d'Asie, mais de Macédoine, aux sombres jours de Chéronée. Il est certain que l'arc d'acier s'est détendu et que la lyre, enrichie de cordes nouvelles, ne prend son harmonie qu'en quittant le ton âpre et fort qu'elle eut dans le temps des héros. Sophocle nous apprend qu'Hercule, civilisé, a quitté la massue, qu'il étudie, enseigne le cœur des astres et leur concert. La seconde Minerve, déjà moins colossale, n'étend plus sur les mers son menaçant regard. Phidias, cette fois, l'a fait méditative, de profond et perçant génie, de très près ressemblant aux effigies de Thémistocle, celui, dit Thucydide, qui vit et prévit. Que regarde-t-elle? On ne sait, mais c'est certainement chose immense, infinie et sublime. Plus qu'Athènes elle-même, c'est plutôt le long cours des siècles qu'Athènes éclairera. Elle regarde l'art éternel. Qui s'étonnera que la Grèce se soit admirée, adorée dans sa merveilleuse beauté, qu'elle ait voulu l'éterniser? Notons qu'avant toute sculpture, la sculpture vivante existait, qu'une puissante création gymnique et harmonique avait fait du réel le parfait idéal rêvé. L'art copia d'abord et commença par le portrait. On ne s'amusa pas à sculpter des dieux au hasard. On fit les effigies de ceux que l'on voyait. La beauté paraissait divine en elle-même, et plus divine encore, comme révélation du dedans. Aux courses d'Olympie, Phidias vit courir et vaincre un merveilleux enfant, et il devint sculpteur. Un autre, de suave beauté, qui, à 15 ans, dut, après marathon, mener le cœur qui rendait grâces aux dieux, fut deviné, senti, acclamé par Athènes. Et son âme jaillit. C'est Sophocle. tout cela grand et pur, très noble, et cependant si vivant, si fécond. Les dieux humanisés, ou disons mieux, divinisés par l'âme que mirent en eux les Phidias, sortirent des temples, siégèrent sous les portiques et dans les places mêmes. Les cités eurent deux peuples à côté et vivant ensemble, les hommes et les Olympiens. L'étrange idée de Winckelmann que tout fut immobile, beau de corps, nul d'expression, a reçu chaque jour d'éclatants démentis. Une vie palpitante est partout dans ces marbres, même avant Euripide, et déjà dans Sophocle. Loin que cet art soit froid, on sent que son écueil pourrait être l'attendrissement. J'admire Sophocle, mais non pas sans révolte, quand il m'arrête longuement, tristement sur les mots physiques, la plaie de Philoctète, quand il m'énerve Hercule, montre faible le fort d'effort. Laissez-moi donc entière la salutaire légende, j'en ai besoin bientôt. Songez que tout à l'heure, à la gloire écrasante d'Alexandre le Grand, Zénon n'opposera que la philosophie d'Hercule. Son Édipe à colonne m'attendrit trop aussi. Le sujet est le besoin de la mort, la guérison des fautes et la guérison de la vie, la douce expiation qui attend la victime de la fatalité dans le long sommeil désiré sous l'abri généreux d'Athènes, la profonde sécurité au bois des Euménides. Les deux filles adorables, enlevées, ramenées, portent au comble l'émotion. Voyez, tout ce grand peuple pleure. Je comprends à merveille que le héros Eschyle, qui vit commencer un tel âge d'émotion, ses attendrissantes merveilles, et d'autres de finesse, de subtile analyse, s'alarma, s'effraya. Que pensa-t-il lorsque vint à Athènes le prodigieux raisonneur Zénon d'Élée qui, le premier, formula, enseigna tous les secrets de la logique par une dextérité terrible. Zénon, accablant les sophistes jusque-là si fiers d'Ionie, prouva en pleine Athènes, au centre d'un tel mouvement, que le mouvement n'existe pas. Périclès l'écouta et tous, on raffola de cet escrime. Le centre des penseurs fut bientôt chez une jeune femme, une de ces Ioniennes que la ruine de Milet envoyait à Athènes. Ces Milésiennes, toutes charmantes, touchantes de leur cruel naufrage, plusieurs vendues, esclaves, n'en devinrent que plus reines. Thargélie, la voluptueuse, Aspasie, fine et pénétrante, eurent une cour, et quelle courtisan! L'ondoyant génie ionique, dans sa grâce fuyante, qui jadis fit l'Olympe et ses métamorphoses, c'était Aspasie elle-même. Phidias et sa jeune école s'inspiraient là de la noble ironie qui joua, traduisit les dieux. Périclès, l'orateur réfléchi, calculé, près d'elle apprenait la mimique et l'imposante comédie qui fascinait le peuple. Les sophistes étudiaient son insidieuse parole, l'art de mêler, démêler, remêler de fins filets de femmes où le plus fin se trouvait pris. Protagoras y prit le doute universel, et Socrate, plus tard, l'art de douter du doute. Étrange affinement, et si rapide, que de siècles en 20 ou 25 ans. Hier, c'était la grossièreté de Marathon. Aujourd'hui, tout est élégant, délicat et subtil. Où est le robuste génie qui fit vaincre la Grèce ? Je vois loger chez Périclès son maître, homme obscur, redoutable pour volatiliser les dieux. C'est l'Ionien Anaxagore, qu'on surnomme l'Esprit, parce que selon lui, il n'est point d'autre dieu. Idée sublime et pure qui, centralisant le divin, mais noyant dans l'éther les énergies de la patrie, faisait évanouir Pallas et Hercule, conduit tout droit Athènes au calme monarchique. L'unité dans le ciel, l'unité sur la terre, c'était le rêve qui couvait sourdement. Beaucoup auraient voulu un bon tyran. Remplacer Jupiter, non par l'esprit d'Anaxagore, mais par leur favori Bacchus, Dionysos, dieu tout oriental qui portait la tiare, la molle robe des femmes d'Asie. Il avait pris le thyrse et le lierre du dieu des vendanges, l'ancien Bacchus rural. Il entraînait les femmes, les esclaves, tourbes orgiastiques, les esclaves d'Athènes, au fond très libres, hardis, comme nos frontins et nos lisettes, admis au spectacle, au mystère, avaient en lui leur dieu, leur tyran, leur sauveur. Par ses affiliés, il tenait Éleusis. Il avait forcé Delphes, se creusant sous le temple un tombeau, une crypte d'où il ressuscitait. Il forçait Apollon de jouer dans sa comédie. Tout cela n'était rien encore. Il devait enterrer, éclipser tous les petits dieux de la Grèce et la mener aux grandes choses, à la conquête de l'Asie et de l'Inde. Quand et dans qui ce grand dieu apparaîtrait-il? À tout tyran, on s'écriait « C'est lui !» par une fatalité étrange, le glorieux tyran de Syracuse, Gélon, au jour même de la victoire de Salamine, en gagna une sur Carthage, lui imposa la loi de ne plus faire de sacrifices humains. Il se sentit si fort qu'au retour, il quitta l'épée, se promena sans garde. On le refit tyran, et ce fut pour toujours. Les tyrans furent des dieux, chefs de la liberté, liberté d'abrutissement. Ils prirent le propre nom du célèbre tyran, Dionysos, Denis, ou s'appelèrent encore Démétrios, fils mari de Cérès, ou du nom qui plaisait au vague espoir, sauveur, sautère. Ces sauveurs furent terribles, écrasèrent les idiots qui avaient espéré la liberté par le tyran. Ténébreux avenir qu'au temps d'Eschyle on voyait mal encore. Cependant, récemment, les orgies du sauveur Bacchus venaient de commencer à Sparte. Le Spartiate Pausanias, le vainqueur de Platée, avait cru se faire le Gélon, le Bacchus sauveur de la Grèce. Dans la lumière d'Athènes, on en riait. Ces obscures machinations paraissaient impossibles. Cependant, les vieillards, regardant Périclès, rêvaient et dans ses traits croyaient retrouver Pisistrate. Mais revenons à l'art. Sous l'empire de Bacchus, dans la fermentation encore contenue des esprits, le théâtre devint le besoin souverain d'Athènes. Il rayonna, quitta ce qu'il avait encore de ses formes élémentaires. Tout changea peu à peu, la scène et le drame et l'acteur. Jusque-là, dressé en charpente et temporairement pour le moment des fêtes, la scène était improvisée et faite pour l'improvisation. Le poète ne remettait à personne le soin, l'effort, le danger de l'action. Lui-même, il jouait son héros. La tragédie était un acte de courage, un dévouement où l'homme se mettait tout entier. Il se lançait en brave sur ce plancher tremblant, sous lequel grondaient des échos redoutables. De sa personne entière, du geste, de la voix, il bravait les caprices, il bravait les risées. La face au moins n'était-elle masquée, abritée de l'outrage? Pas toujours, car Sophocle, pour son extrême beauté, joua dans une de ses pièces la belle Nausicaa. Mais cela coûtait à Sophocle. Le peuple qui raffolait de lui épargna à son favori ce pénible devoir. On lui en donna d'autres, plus conformes à son caractère. Un sacerdoce, par exemple. On le croyait si bien chéri des dieux qu'on lui attribua un miracle. Un jour, pendant une tempête, un hymne de Sophocle était chanté. À l'instant, le calme se fit. Neptune et la mer écoutaient. Il se sentait aimé. Dès 20 ans, il se présenta au concours de la tragédie. Il produisit une gracieuse pastorale, Triptolème, à la gloire de l'Eusis sans doute et des nouveaux mystères. Il y disait, d'après Pindare, « C'est le bonheur, les voir et puis mourir ». Un tel mot enlevait, ravissait à coup sûr tout un monde d'initiés. L'admiration, la fureur pour le jeune poète allait si loin qu'on lui sacrifia une des grandes tragédies d'Eschyle. En vain luttait son vieux parti, héroïque et patriotique. On ne pouvait s'entendre. On remit le jugement aux généraux, au glorieux Simon qui, revenant d'une nouvelle victoire, en rapportait les cendres de Thésée, don si agréable à Athènes. Simon, le fils de Miltiade, ne pouvait être hostile au vieux soldat de Marathon. Mais ce vaillant Simon ne le fut pas devant le peuple. Il vit où était sa faveur, et il se détourna d'Échille. Celui-ci, désormais, avait tout contre lui, l'âge et ses longs succès, disons-le, le progrès de l'art qui va, suit son chemin à part du génie même. L'art exigeait une tragédie moins lyrique, plus dramatique, d'un nœud plus compliqué qui saisit le cœur, le retint inquiet, suspendu. C'était le terrain de Sophocle. Échille ne le déclina pas. Il l'y suivit dans l'Orestie. C'est ce que le théâtre grec, disons mieux, le théâtre a produit de plus grand. Shakespeare, avec tant de ressorts et d'effets variés, de magiques et profondes complications, n'a point dépassé cet art-là de simplicité formidable qui se passe d'être ingénieux, qui, sans subtilité, sans repli, sans embâge, vous prend d'autant plus fort, vous serre et vous étreint. Les trois pièces de l'Orestie vont dans un crescendo terrible. On jouait du matin au soir pendant les fêtes. On put tout jouer en un jour. La mort d'Agamemnon le matin, celle de Clytemnestre à midi, le soir les Euménides. De drame en drame, de terreur en terreur, l'auditoire ne respira plus. Les plus fermes frémirent, les femmes s'évanouissaient et plusieurs, dit-on, avortèrent. Le soir, tout était terrassé, et seul, debout, restait Oreste Échille. Agamemnon déjà saisi. Quand la perfide épouse tendrement le reçoit, l'enveloppe de son voile, le froid prend à l'épine. La Clytemnestre donne d'un bout à l'autre une horripilation sauvage, le frissonnement du parricide, le remords même avant. Oreste sait son sort. Les dieux veulent le meurtre et le puniront d'obéir. C'est ce que les Euménides, d'une audace incroyable, font ressortir, posant les dieux dans leurs contradictions. Elles les poursuivent autant qu'Oreste les accablent ensemble de leur mutuel démenti. Échille osa beaucoup. C'était la pensée populaire, mais on pouvait s'irriter, s'indigner de la voir à ce point éclaircie. On n'a pas senti tout cela parce qu'on n'a jamais expliqué quelle était la situation morale, la pente où descendait rapidement l'Olympe hellénique. Dès la ruine de l'Ionie, Jupiter, Apollon furent cruellement discrédités. Leurs oracles tombèrent. Crésus, qui les payait fort cher, qui crut vaincre les Perses et fut leur prisonnier, fit le sanglant outrage au dieu de Delphes de lui offrir ses chaînes. On le surnomma l'Oxias, l'ambigu, l'équivoque. Consulté avant Salamine, il tergiverse, on rit, et le seul dieu, c'est Thémistocle. Échille, évidemment, rappelait l'oracle incertain qui avait perdu la Lydie et la pauvre Ionie, l'infortuné Milet, tant pleuré par Athènes. Il ose faire dire aux Euménides « Voyez ce trône de Delphes, comme il dégoutte de sang !» Outrager Apollon, outrager Jupiter, comme il le fit aussi, n'était pas le plus dangereux. Le mortel danger de la pièce, c'est le mot que les Euménides disent et répètent avec mépris, je ne sais combien de fois. Les jeunes dieux. Si ce mot atteignait Phébus, bien plus directement, il tombait sur Bacchus, dernier-né de l'Olympe. Les terribles déesses accablaient cet intrus du fond de leur antiquité. Échille, qui était d'Éleusis, qui, un fragment le dit, filialement aimait la Cérès d'Éleusis, savait mieux que personne le changement profond des mystères où Iacus, introduit comme enfant, grandit, devint Zagreus, mort et ressuscité, Enfin, le triomphant Bacchus, qui dompta la pauvre Cérès, bon gré mal gré, fut son époux. Cette révolution semble s'être accomplie de 600 à 500. Mais les choses se précipitent. Au Bacchus d'Éleusis, qui seul garda quelque décence, va se mêler l'ignoble engeance des petits Bacchus de l'Asie, Sabas, Attis, Adon, etc., etc. Tout cela avant 400. Le grand Bacchus, qui déchira Orphée, le sauveur, disait-on, des femmes et des esclaves, dieu de la liberté, de délire et d'ivresse, ce Bacchus, avec de telles masses, était un tyran dans la Grèce. Il en inspirait les terreurs. Même à Athènes, la ville incrédule et rieuse, cette masse très compacte d'initiés, de femmes et d'esclaves, se faisait redouter, et surtout au théâtre, où le nombre les rendait hardis. Les esclaves assistaient. Ils n'auraient pas parlé, mais ils pouvaient mugir, rugir, et c'était un tonnerre. Les femmes assistaient. Leur sensibilité pour ce tendre Bacchus les rendait parfois furieuses et très près de l'assassinat. Eschyle faillit en faire l'expérience. Sur un mot qu'il dit des mystères dans je ne sais plus quelle pièce, il aurait péri sous leurs ongles s'ils n'avaient embrassé l'autel qui était sur la scène même. On peut juger de l'extrême péril où il était en prononçant ce mot terrible et clair, les jeunes dieux. Mais en bravant les fanatiques, s'était-il assuré du parti opposé, des esprits forts, incrédules ou sophistes, de ceux qui, comme Anaxagore et son élève Périclès, ne voulaient de Dieu que l'esprit? Point du tout. Ce parti des libertés religieuses était attaqué par Eschyle dans sa voie tortueuse vers la tyrannie politique. Il faisait dire aux Euménides « Révérez la justice, rendez honneur aux lois, gardez de vous donner des maîtres ». La pièce entière, on peut le dire, avait la portée d'une attaque contre les intrigants qu'employait Périclès. L'un, aposté par lui, poussait le peuple à supprimer l'aréopage. Eschyle s'interposa par ce drame hardi où il montrait Minerve fondant pour le procès d'Oreste, l'irréprochable tribunal qui, longtemps, avait fait d'Athènes le centre et le temple du droit. L'aréopage ne fut pas supprimé. On recula. Mais d'autant plus la perte d'Eschyle était sûre. On ne le lâcha plus. Sous vain prétexte, il est dès lors persécuté, calomnié. On se dit à l'oreille que, si au dénouement, il évite de tuer sous les yeux du public, c'est qu'il tue derrière le théâtre. Que, dans la fureur du succès, pour l'obtenir du ciel ou des enfers, il égorge des victimes humaines. Ces préludes ingénieux préparaient le grand coup qu'on lui porta, l'accusation d'impiété. On a peu de détails. Se défendit-il? On l'ignore. Il semble que, pour apologie, il montra seulement sa blessure, rappela Marathon, son frère et Salamine. L'accusation rougit, se tut. Ne pouvant le frapper, on frappa son théâtre. C'était lui-même encore. Un matin, il s'écroule. Vieux théâtre de bois qui, tant de fois, a frémi sous ses pas, grondé du tonnerre de sa voix, il s'écroule. Vengeance manifeste des dieux. Il a lassé leur patience. Ils imposent silence à ces fureurs impies, à cet Ajax, à cet Oreste, à ce géant blasphémateur. Il a brisé lui-même et tué sous lui son théâtre. On en refait un, admirable, de marbre, entouré de statues. Mais il n'ira pas à Eschyle. Il n'est plus, comme l'autre, vibrant et palpitant, imprégné de cette âme antique. Les effigies des dieux, merveilles d'art, partagent désormais l'intérêt. Les regards. À leur tête, la rêveuse image, somnolente et voluptueuse, du dieu nouveau, Bacchus, Vénus mâle, l'amoureux d'Athènes. Tout cela dit au vieux héros le mot que, dans sa pièce, les Furies disaient à Oreste. C'est fait de toi, tu ne parleras plus. Je crois que c'est alors que, sur cette scène même qu'il quittait pour toujours, le vieux titan se dressa son Caucase, se fit lier, clouer et foudroyer par Jupiter, pour de là lui lancer le grand mot de révolte, la prophétie de l'avenir. Colonne, un petit bourg peu éloigné d'Athènes, lieu entre tous tragique, est connu par Édipe, sa mort, le mystère de sa tombe. Il avait à sa porte le bois des Euménides et l'autel d'un proscrit, le titan Prométhée. Tandis que la via sacra d'Éleusis, jour et nuit, était peuplée, bruyante, Colonne était désert. Ces vieilles divinités mal famées n'attiraient pas le peuple. Son bois sinistre faisait peur. Le passant s'écartait et détournait les yeux. Prométhée, comme on sait, est l'ennemi personnel de Jupiter, le maudit qu'il cloua au Caucase. Malgré les dieux, il nous donna le feu, les arts. On osait l'oublier, on lui rendait un demi-culte. On payait à ce bienfaiteur l'honneur économique d'une petite course annuelle. Peu de gens la faisaient. Aristophane s'en plaint. Tandis qu'on s'étouffait aux mystères équivoques, personne ne savait porter le flambeau de Prométhée. Ce flambeau, allumé sur un autel d'Athènes, devait être porté à celui de Colonne. Les feux rapides, scintillants ou fumeux, dont le vent se jouait, triste image de nos destinées, passaient de main en main, mais ils n'arrivaient guère. Le sombre autel restait obscur. Étrange oubli, coupable ingratitude. Prométhée a été l'émancipateur primitif et toute énergie libre a procédé de lui. Par lui, non par Vulcain qui n'est pas né encore, a jailli la sagesse, la fille aînée de Jupiter. Le dieu des foudres, entre ses noirs nuages, en était opprimé, la sentait qui couvait sous son front. L'industrieux titan, d'un coup sublime et le plus beau qui fût frappé jamais, lui perça son orage. Un lumineux éther, serein, pur, virginal, resplendit. La Vierge éternelle, qui fut l'âme inspirée d'Athènes, mais vit toujours, vivra, survivra à jamais à tous les Jupiters. Légende la plus haute à coup sûr de l'Antiquité. Noble génération du génie et de la douleur. C'est la leçon immuable de l'homme, l'émancipation par l'effort, la seule juste, efficace. Elle apprend à chacun de nous à tirer de soi sa Pallas, son énergie, son art, son vrai sauveur. Elle est directement contraire au sauveur ténébreux, au faux libérateur, et seule elle est la liberté. Cet éther de Pallas semble être le feu même dont Prométhée alluma l'âme humaine. Le titan le tira de l'Olympe pour le mettre en nous. Jusque-là, lourd d'argile, l'homme traînait, troupeau raillé des dieux. Prométhée, c'est son crime, met en lui l'étincelle. Et voilà qu'il commence à regarder les astres, à noter les saisons, à diviser le temps. Il assemble les lettres et fixe la mémoire. Il trouve la haute science, les nombres. Il fouille la terre et la parcourt, fait des chars, des vaisseaux. Il comprend, il prévoit, il perce l'avenir. Prométhée ouvre à l'homme la voie de l'affranchissement. Il est l'anti-tyran. Au moment où l'Olympe, en son jeune Jupiter Bacchus, est de plus en plus le tyran, qui peut imiter trop bien des tyrans de la terre. Je serais bien trompé si ce titan Échille ne fût venu souvent demander, comme Édipe, un siège aux Euménides de Colonne, s'il ne se fût assis à cet autel désert du grand bienfaiteur oublié. À cet autel, et non ailleurs, le poète a pu trouver deux choses que le titan lui seul pouvait lui révéler. Échille sut le nom de sa mère, sut que Prométhée n'est pas fils d'une certaine Climène, comme on le disait sottement, mais fils de la justice, de l'antique Thémis, qui a vu naître tous les dieux. La seconde chose, toute divine, que ni Hésiode, ni personne n'avait soupçonné, c'était le vrai motif pour lequel Prométhée se perdit. Dans Hésiode, le bienfait du titan est un tour de malice, il veut faire pièce à Jupiter. Dans Échille, il a eu compassion des misères de l'homme. Il eut pitié. Cela le divinise, le fait Dieu par-dessus les dieux. pitié, justice, deux tout-puissants leviers qui donnaient à la vieille fable une incroyable force. 30 000 spectateurs furent saisis, furent liés, plus que Prométhée au Caucase, quand il lança ce cri. « Ô justice, ô ma mère, tu vois ce qu'on me fait souffrir !» Quel cœur ne fut percé quand, d'une voix profonde, il dit ce mot amer. « J'eus pitié, c'est pourquoi personne n'a eu pitié de moi. » Si, comme on croit, le Prométhée parut vers 460, Eschyle avait alors 65 ans. Je crois pourtant que, malgré l'âge, cette fois encore il parut sur la scène. Dans ces pièces si dangereuses, nul autre que l'auteur n'aurait osé jouer. Aristophane ne trouva que lui-même pour jouer celle où il stigmatisait Cléon. Eschyle, après les Euménides, où il bravait tout à la fois et le parti de Périclès et le parti des jeunes dieux, ne devait pas trouver aisément l'acteur intrépide qui jouerait le titan, l'impie, le solennel ennemi des tyrans, de la tyrannie, car c'est ce mot en toutes lettres qui ouvre et explique le drame. On dit après cela que Prométhée est obscur. Il n'était que trop clair. D'un côté, lié et cloué, il y avait le fils de la loi. D'autre part, tout-puissant au ciel, le tyran, l'ennemi de la loi, le maître, l'arbitraire, la faveur ou la grâce. Cela se nomme Jupiter. Mais Jupiter alors se mêle avec Bacchus. Il lui prête la foudre et l'aigle tout à l'heure, dans les statues de Polyclète. Là surtout était le danger. Eschyle seul pouvait jouer, joua, livra ses bras aux chaînes, ses mains aux clous et sa tête au marteau. Spectacle extraordinaire qui avait tout l'effet d'une exécution personnelle. Pas un mot dans la première scène, pendant que les cruels esclaves de Jupiter, la force, la violence, obligent Vulcain de le river. Elle lui laisse seulement l'ordre net et cynique « Respecte le tyran ». Il n'ouvre pas la bouche encore. Mais resté seul, alors son cœur éclate et du masque d'airain échappe un terrible soupir. Dans les Sept, dans les Perses, Eschyle semble parfois exagéré et emphatique, mais point du tout dans Prométhée. Ses natures, ses douleurs, de vraies explosions de douleur, un sentiment tout à la fois et général et personnel. Il n'y a pas à distinguer. C'est le titan et c'est Eschyle. C'est l'homme comme il fut et sera. L'humanité se plaint. S'abaisse ? Non. Du fond de la douleur, elle est forte, se dresse. On sent que l'héroïsme en l'homme est la nature. Aux nymphes océanides qui viennent pleurer avec lui, il explique son sort, mais dans une grandeur, une fierté qui les fait frémir. Et il parle de même à son faible ami l'océan qui voudrait lui donner des conseils de lâcheté. Il marque pour toujours les grands traits du tyran. Celui qui règne par ses lois, des lois à lui, volonté singulière, individuelle, personnelle, sauvage et non civile, volontés inégales, l'amour à l'un, la mort à l'autre. Et il ajoute ce mot fort, il a le droit chez lui, et il en est propriétaire. Mais le profond trait du caprice où se marque mieux le tyran, c'est l'outrage, la cruelle débauche, la barbarie, dans l'amour même. Ce que lui-même, Eschyle enfant, a vu sous les Pisistratides et ce qui fit leur chute, il le marque dans Jupiter. L'infortuné Io, trompé par lui, livré aux fureurs de Junon, piqué du temps atroce par les mers, par les précipices, va éperdu d'un monde à l'autre. Le hasard de sa course l'approche un moment du Caucase. Les deux misérables se voient, Io et Prométhée, l'éternel mouvement et la captivité, l'immobilité éternelle. La pauvre Io voudrait savoir son sort. Elle demande l'énigme du monde. Qui règle le destin? La Parque, les Furies, mot cruel qui pourtant n'est qu'un cri de douleur sur le désordre de ce monde. Ces formes fatalistes reviennent fort souvent dans Eschyle, comme des plaintes amères, des rugissements. C'est une arme plutôt qu'un dogme. Il se sert du destin comme d'un joug d'airain pour faire plier les dieux, pour briser le caprice de l'Olympe homérique. Mais regardez le fond, la vraie pensée et l'âme. La liberté vivante est partout dans ces drames. Elle y circule et les anime d'un souffle extraordinaire. Dans les Sept, dans les Perses, elle respire, et c'est la patrie, le libre génie de la Grèce. Aux Euménides, c'est le droit, le débat juridique de la loi et de la nature. Prométhée enchaîné au plus haut degré, c'est le libre, la liberté d'autant plus forte qu'elle est fille de la justice. Elle n'est point fureur titanique, une vaine escalade du ciel, mais la liberté juste contre le ciel injuste de l'arbitraire ou de la grâce. Prométhée est le vrai prophète du stoïcien et du jurisconsulte. Il est anti-païen, il est anti-chrétien. Il s'appuie sur la loi, n'invoque que ses œuvres. Il n'atteste que la justice, nul privilège de race, de prédestination, rien de l'aînesse antique des titans sur les dieux. Le salut qu'il attend lui viendra tôt ou tard du héros de justice, Hercule, qui le délivrera, tuera le vautour qui le ronge. Jupiter pliera sous le droit, subira le retour, le triomphe de Prométhée. Mais tout doit s'expier. Il ne sera pas quitte. Un successeur terrible lui viendra, redoutable géant, armé d'un feu vengeur pour éteindre celui de l'Olympe et son petit tonnerre. Jupiter, à son tour lié, deviendra le patient. Au moment où l'on croit qu'il va nous dire le nom de ce futur vainqueur de Jupiter, Mercure vient, l'interroge, mais il n'en tire rien que mépris. La foudre gronde. En vain, Prométhée, de pied ferme, attend, défie. Le tonnerre tombe. Nous restons ignorants de ce mystère profond. La terre d'Athènes, après le Prométhée, ne pouvait plus porter Eschyle. Il s'exila, on respira. Le prophète est l'horreur et le scandale du monde. Isaïe fut scié en deux. L'infortuné Cassandre, en qui semble se peindre Eschyle, victime et du peuple et des dieux, sous son laurier fatal, à travers les outrages, va chercher le couteau mortel. Le peuple est implacable pour ceux qui le forcent de voir. Il leur en veut d'avoir parlé et voudrait les forcer de parler davantage. S'ils ne s'expliquent, ils sont des imposteurs. Meurs ou explique-toi, tu romps la paix publique, tu es l'ennemi de la cité. C'est la torture intime de l'esprit prophétique. De ses pics effrayants où l'a porté son vol, il voit l'immensité, l'incognita terra. Mais comment la décrire? Cette vision trouble qu'on ne peut ni éclaircir ni écarter accable le voyant. Eschyle, réfugié en Sicile, survécut peu. La mort lui vint du ciel. Un aigle, tenant une tortue, cherchant un roc pour la briser, prit pour roc la tête d'Eschyle, son grand front chauve. Il ne se trompait pas. Après lui, nul prophète. En ces 100 tragédies, où il est si antique et de beaucoup l'aîné d'Homère, il avait fait la Bible grecque, pour ainsi dire son Ancien Testament. Tout le monde hellénique, même en ses colonies lointaines, tant qu'il dura, le jouait dans les fêtes par un devoir religieux. À lui seul fut donné de voir, par-dessus le grand siècle des arts et des sophistes, de voir la voix d'Airain, de Périclès aux 30 tyrans. Dès les Euménides, il en parle. Prends garde, ne te fais pas des maîtres. Dans le Prométhée, s'élevant, embrassant le ciel et la terre, il marque la voie tyrannique des jeunes dieux. L'orgie des dieux tyrans qui, par apothéose ou par incarnation, nous vont donner les tyrans dieux. Athènes en fut blessée et détourna les yeux. Elle se rejeta vers Sophocle. Les beaux et doux génies de l'harmonie qui ravissaient ce siècle se gardaient d'imiter l'importun, le cruel Échille. Sophocle et Phidias, loin d'accuser l'infirmité des dieux, leur triste discordance, leur rendent dans le marbre ou le drame, sinon la vie puissante, du moins la dignité élyséenne des grandes ombres. Sophocle, avec douceur, respect, les ménage et les justifie. Par une heureuse adresse, le désordre du monde est éludé, voilé. Le redoutable sphinx qu'Échille osa montrer, rassurez-vous, on ne le verra plus. Sophocle et le fils de Sophocle, Platon qui viendra tout à l'heure, en détourne la vue. Est-il encore ce monstre? Qui le verrait? Un bois sacré de lauriers tout autour a poussé si touffu, tant d'arbres, de feuilles et de fleurs. L'escrime des sophistes, leurs amusants duels rivalisent avec le théâtre. Au portique, au gymnase, on fait cercle autour d'eux. Ce peuple, rieur et curieux, plus qu'aucun jeu d'athlète, estime l'ironie socratique. Il est fier, délicat, subtil. Qui oserait l'occuper des nouveautés grossières qui viennent de Thrace ou de Phrygie, de ces petits mystères de femmes qu'elles font entre elles le soir, de la pleureuse orgie où, pour le plaisir de pleurer, on lamente la mort d'un Zagreus qui ne fut jamais, ou la mort d'Adonis couché sur un lit de laitue, ou la blessure d'Atys, qui n'est homme ni femme. À peine en daigne-t-on parler. D'autant plus aisément gagne en dessous, s'infiltre l'obscur débordement de toutes les folies de l'Asie. On se demande comment l'Asie, qui agit si peu sur la Grèce par son plus pur génie, la Perse, agit par le plus bas, le vertige insensé de Phrygie, par les charlatans de Cybèle, par le sombre et impur génie de la Syrie. Avait-elle tellement baissé, faibli? Avait-elle, par sa décadence, mérité cette honte? On l'a dit, mais à tort. La Grèce n'eut point de décadence. Elle mourut jeune, comme Achille. Sa force et sa fécondité étaient les mêmes. Platon, Sophocle avaient passé. Mais le génie de la science lui ouvrait une voie non moins grande et plus ferme. Hippocrate, Aristote, ces observateurs admirables, commençaient une Grèce d'un génie adulte et viril, mieux armé de méthodes, de lumières supérieures, de procédés plus sûrs, qui allait enjamber 2000 ans et marcher vers l'ère de Newton et de Galilée. Les guerres intérieures de la Grèce ne l'auraient pas détruite. Elle aurait trouvé en elle-même de puissants renouvellements. La lutte des factions ne l'aurait pas détruite. Ce fut une partie de sa vie. L'aiguillon de la concurrence qui stimulait l'effort portait au plus haut l'énergie. L'esclavage, quoi qu'on ait dit, ne la détruisit pas. Le grec n'en fut point amolli, se réserva pour lui les œuvres de la force. Jamais peuple ne fut plus généreux pour les esclaves. Ils allaient au théâtre, ils furent même admis au mystère. Leur sort était fort doux, car Diogène, esclave, ne voulut pas être affranchi. Un proverbe d'Athènes dit combien la condition était mobile. L'esclave d'aujourd'hui, c'est demain l'habitant, bientôt le citoyen. Les mœurs altérées, corrompues, furent-elles la ruine de la Grèce? Point du tout. La Vénus impure de Phénicie, qui fleurissait en Chypre, à Cythère, à Corinthe, tint en réalité peu de place dans la vie grecque. Le plus simple bon sens, la plus élémentaire physiologie démontre que celui qui, sans cesse, dépense énormément de force dans tous les genres d'activité, en garde bien peu pour ses vices. Si l'on m'assurait qu'un artiste produit 20 heures par jour, je serais bien sûr de ses mœurs. Les Grecs étaient parleurs, rieurs, souvent cyniques. Bien loin de rien cacher, ils ont mis en saillie des misères et des hontes qui presque jamais n'existaient. Les mœurs grecques dont on parle tant, dont ils ont eu le tort de plaisanter eux-mêmes, sont, dans un seul quartier de telle ville chrétienne qu'on peut nommer, plus qu'elles ne furent jamais dans tout le monde grec. Le peu qui fut réel chez eux vint assez tard, au premier ravissement de l'art, quand Phidias prouva que la forme humaine est divine, le sublime de la découverte mit l'âme à une grande hauteur. Notez que l'extrême beauté, de parfaite harmonie, étonne et stupéfie plus qu'elle ne donne de l'amour. La vie gymnique est chaste et sobre. Elle n'est nullement propre à faire de fausses femmes, comme on les aimait en Asie. Au contraire, le nerf dur et le muscle de pierre, d'imposants et de puissants mâles. La femme fut honorée en Grèce. Elle eut toujours, garda sa part au sacerdoce, n'en fut nullement exclue, comme en Judée et tant d'autres peuples. Citoyenne orgueilleuse, exigeante, bien plus que l'homme dans tous les honneurs solennels, elle régnait dans la maison, influait souvent dans l'État. Les comiques le montrent très bien, et l'affaire de Lesbos dans Thucydide. Elle avait ses mystères à elle, ses liaisons très fortes, et comme une république féminine. Ces plaisanteries d'Aristophane ne sont que trop sérieuses. Là fut la plaie publique. Elle ne put jamais suivre l'homme et resta sombrement à part. La Grèce, dans sa course olympique, aux chars brûlants, sur la roue qui prend feu, traînera-t-elle cette molle compagne? Une vie si tendue, hors de tout équilibre, tant d'œuvres et de combats. La femme est éblouie, effrayée, et n'y voit plus l'homme. Et qu'est-ce? Un feu du ciel? Elle craint le sort de ses mêlées. Ajoutez, dans cette lumière trop vive, l'étrange hilarité qui vient de tout excès de force. Cette ardeur, cette jeunesse, l'orgueil triomphant de la vie. La femme en est blessée, humiliée. Elle baisse les yeux. Elle se réfugie dans la nuit. Il n'eût pas fallu les laisser. Plus qu'aucune autre, elle aurait pu s'associer. Certes, cette sœur d'Alceste et d'Antigone, d'un tel cœur admirable au dévouement de la nature, méritait qu'on ouvrît son noble esprit à la vie haute de la loi. Elle eût rendu beaucoup, et la Grèce elle-même, avec tout son génie, n'a pas pu deviner ce que la culture tendre, assidue de l'épouse, l'approfondissement de l'amour, lui aurait ajouté de délicatesse héroïque. La femme fut rejetée vers les dieux pleureurs d'Orient, le Bacchus, Attis, Adonis. Aux fêtes du printemps, des enfants étourdis, dans une orgie moqueuse, chantait la belle délaissée dont Bacchus remplit seul le veuvage et le vide. Peut-on dire qu'elle n'a fait aucun pas vers la vie plus haute? Oh non! La mémoire immortelle subsiste de celle qu'on a calomniée, mais qui fut un héros autant qu'un sublime poète. Alcée nous la rappelle dans ce beau vers touchant. Noirs cheveux, doux sourire, innocente Sappho. Innocente, ce poète, fier et fort, pénétrant, dit là une belle vérité. Le génie est une innocence. Mystère profond des grands artistes. Quoi qu'il advienne, ils gardent un fond de pureté. Celle-ci naquit pure et très douce. Platon la met dans les sept sages. Nous la voyons étonnée, affligée d'apprendre que son frère ait acheté d'Égypte une trop célèbre courtisane. La tyrannie l'indigne. Elle hasarde sa vie pour renverser le tyran de Lesbos. Elle perd sa patrie, mais trouve son génie dans l'exil. Elle changea toute la musique, elle inventa le chant des pleurs, mixolydien. La lyre, sous le doigt, restait sèche. Elle inventa l'archer qui la fait pleinement soupirer et gémir. Enfin, c'est le grand coup, Les cadences uniformes qu'on avait jusque-là semblaient mortes à sa passion. Elle trouva le rythme qui darde la pensée et qu'on nomme saphique. Dans un récitatif de trois vers, l'arc se tend, un vers court le détend et la flèche est au cœur. Rien de plus rare que de trouver un rythme. Homère, Shakespeare n'eurent point cela. De ce génie ardent, bon, tendre, étonnamment fécond, qui avait inondé la Grèce de flammes et de lumière, à peine reste-t-il quelques paroles d'or, des mots simples, attendrissants de passion. Qui dirait qu'avec tout cela, elle n'ait point trouvé l'amour, l'infortunée, qu'elle est aimée en vain, que le monde ait fui devant elle, qu'elle n'ait eu de consolation que la tendresse de ses élèves émus qui essuyaient ses pleurs et dont on a noirci la compatissante amitié. Les pleurs, le désespoir de Sappho sont l'accusation de la Grèce. Le génie grec, il faut le dire, a passé à côté de deux mondes. Il a vécu dans le milieu des choses, négligeant les deux bouts, les pôles, les grandes perspectives qui s'ouvrent d'un côté ou de l'autre. Il n'a approfondi ni l'amour ni la mort. Deux écoles et deux grandes voies par où l'âme s'étudie, se pénètre en elle et dans le tout, et dans cette âme aimante qui, par ses deux formes harmoniques, la mort, l'amour, en fait la beauté éternelle. La Grèce, à l'entrée de ces voies, se détourna, passa, sourit. Son amour n'est qu'enfant, un oiseau à petites ailes. La mort, si elle n'est héroïque, n'en tire pas plus d'attention. Elle est parée, légère et couronnée, comme au banquet. La belle Proserpine descend là-bas, mais sans lâcher ses fleurs. C'est un regret pour nous. La Grèce, mâle et pure, très lucide, avait seule le droit, le pouvoir de nous mener, comme un autre Thésée, au double labyrinthe où l'on se perd si aisément. Les dieux efféminés d'Asie, mutilés, énervés, nous y menèrent très mal par les sentiers de l'équivoque. Un hôte tout nouveau, très fâcheux, entra dans ce monde, la mort pleureuse, énervante et décourageante, exactement contraire à la mort harmonique, qui salue, qui adopte l'ordre divin, s'en illumine, comme aux pensées de Marc Aurèle. La pleureuse nous vint, ce spectre féminin qui, dans les forts travaux et les résolutions viriles, l'héroïque élan près de nous, soupire et nous dit « À quoi bon ?» Écoutez-la, la prêcheuse équivoque, vague et molle, nageant au flot des rêveries, mêlant à la douleur, je ne sais quoi qu'on aime, les douces et saintes larmes, de deuil, de plaisir, on ne sait. Vierge d'Athènes, ma fière Pallas, si pure, quel fut ton dédain prophétique quand on osa t'offrir le fiévreux instrument, la flûte orageuse et lugubre des cultes d'Asie. Tu la jetas dans la fontaine. Hercule n'en fit pas moins. Un jour qu'il entendait la fête larmoyante de l'énervé du dieu femme Adonis, son cœur se souleva. Il maudit la honte à venir. Mais la condamnation suprême de ces dieux à deux faces, c'est le père du feu, Prométhée. Il nous a enseigné un autre engendrement que toute l'Asie ne savait pas. Comment, par le fer et l'acier, l'effort, l'art fait jaillir cette fille immortelle, la raison, la sagesse, l'éther de la pensée lucide, la seule inventive et féconde, exactement contraire à la torpeur rêveuse du miraculeux Orient. Mais l'Orient s'avance, invincible, fatal au dieu de la lumière, par le charme du rêve, par la magie du clair-obscur, plus de sérénité. L'âme humaine, cette Ève curieuse, fouillant dans l'inconnu, va jouir et gémir. Elle trouvera là, sans doute, d'étranges approfondissements. La force et le calme, jamais. Elle aura la joie, violente, souvent insensée, âcre et sombre. Elle aura les pleurs, que de pleurs. Le contraste de ces deux choses, leur lutte et l'impuissance, et la mélancolie qui suit.